de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. La création d'emplois du jeune constitue l'un des défis majeurs du gouvernement congolais en RDC selon le rapport national sur l'emploi des jeunes publié en 2022. Pour maintenir le taux de chômage stable d'ici 2030, il faudra créer environ 9,6 millions d'emplois, soit près de 100 000 emplois par mois. Mais à ces jours, l'insertion des jeunes dans le marché du travail demeure encore un défi majeur. Selon les études, le secteur informel domine largement les marchés de l'emploi en RDC, représentant 84% d'opportunités suivies du secteur privé, des solides des ménages et enfin du secteur public. Pour relever les défis de l'emploi des jeunes, le rapport appelle à une transformation profonde des politiques publiques en matière de création d'emplois, avec une attention particulière portée sur les jeunes et l'économie informelle. En RDC, il existe tout de même des initiatives privées qui essaient d'encadrer les jeunes pour un avenir responsable et à devenir des véritables acteurs de développement dans tous les secteurs de la vie nationale. Que pensez-vous des défis liés à la création d'emplois des jeunes et des initiatives privées visant leur encadrement? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les journaux 976-80-79. Hippolyte Kapanga est à la mise en œuvre de ce magazine et je lui fais un bon gondas sur la réalisation et la coordination. Nelson Yombela pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Et nous disons déjà merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook Paroles aux auditeurs par rapport à ce sujet. Nous aurons à lire au cours de ce magazine quelques-unes de vos réactions. Et pour en parler de cette problématique de la création d'emplois des jeunes en RDC, nous avons en ligne l'honorable Jethro Muyombi. Honorable, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez quelques soucis pour arriver jusqu'à nos studios. J'espère que ça va marcher. On sait comment ça se passe. C'est jour ça Kinshasa avec les embouteillages. On espère bien, avant la fin de ce magazine, vous serez bel et bien avec nous dans ce studio. Mais en attendant, on va commencer ces sujets au téléphone, le temps que vous continuez à avancer. Et je rappelle, si vous êtes intéressé, vous voulez appeler, composer les zones 976-80-79. Honorable, on va parler de la création d'emplois de jeunes en RDC qui constitue l'un des défis majeurs du gouvernement congolais. Il y a le rapport national sur l'emploi des jeunes qui a été publié en 2022 pour qui dit que pour maintenir le taux de chômage stable d'ici 2030, il faudrait créer environ 9,6 millions d'emplois, soit près de 100 000 emplois par mois. Et le constat est celui-là, un constat bien amer. L'insertion des jeunes dans les marchés du travail demeure encore un défi majeur. Il s'agit des études, le secteur informel qui domine largement le marché de l'emploi en RDC, représentant 84% d'opportunités suivies du secteur privé, des solides des ménages et enfin du secteur public. Et il y a ceux qui estiment que, et les rapports également en parlent, pour relever les défis de l'emploi des jeunes, il faut une transformation profonde des politiques publiques en matière de création d'emplois, avec une attention particulière portée sur les jeunes et sur l'économie informel, mais il faudra signaler également, et vous en faites partie, il y a des initiatives privées, dans toutes les personnes qui essaient d'encadrer les jeunes pour un avenir responsable et à devenir de véritables acteurs de développement dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, cette première question, honorable, que pensez-vous par rapport à tous ces défis concernant la création d'emplois des jeunes en RDC? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire, en tout cas, pour relever ce défi?
Merci, M. Marcel, pour la question. Je crois que c'est un problème réel pour notre pays. Effectivement, bon, d'abord, avant de continuer, il faut parler que dans le programme du gouvernement présenté par Madame la Première ministre à l'Assemblée nationale, elle avait parlé des 6,4 millions et non pas 9,4, je crois, comme j'ai entendu aussi parler hier. Ce qui nous renvoie réellement à peu près 104,66, quelque chose comme ça, je suis pas trop mathématicien, par mois. Et donc il faut comprendre que c'est un sérieux problème, et si aujourd'hui nous essayons de voir les taux de chômage est trop élevé. Mais je pense que c'est un problème qui nous concerne tous, ça concerne le gouvernement, ça concerne tout un citoyen congolais, parce que on devrait quitter l'effet de croiser les bras et peut-être d'attendre seulement que le gouvernement crée de l'emploi, ce qui n'est peut-être pas à 100% faisable pour le moment, mais ça peut être toujours faisable.
Ça peut
Alors, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on s'y engage.
Oui.
Tous et chacun peut créer de l'emploi là où il est, mais on sait que c'est aussi la responsabilité, c'est la responsabilité du gouvernement de permettre ou de créer le climat des affaires acceptable, mais aussi la responsabilité de tout citoyen congolais, je vais dire.
La responsabilité de tout citoyen congolais, mais il y a ceux qui estiment qu'il n'y a pas une véritable politique concernant l'emploi des jeunes en RDC.
En parlant de la politique, vous avez raison. Je crois que nous avions tous suivi, comme j'étais en train de faire référence au programme du gouvernement, parce que c'est ça même les socles de tout ce qui doit se passer dans notre pays. Madame la Première ministre avait bien souligné que le climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires serait au cœur même de sa politique gouvernementale. Et ce qui veut dire qu'il y a déjà une volonté, il y a déjà les débits d'une volonté de rendre ces climats-là être réels pour que l'emploi soit créé réellement.
Alors maintenant, s'il faut parler des jeunes, parce que selon les études qui ont été menées, là, les secteurs informels qui dominent largement les marchés de l'emploi, représentant 84% des opportunités, suivi du secteur privé, et les secteurs publics vient en dernière position. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut davantage encourager les secteurs privés, ou voir comment faire en sorte que les secteurs, on sort de l'informel, on quitte l'informel pour le formel.
Si on essaie de jeter un regard partout dans le monde, c'est les secteurs privés d'abord qui donnent plus de l'emploi, et peut-être cela peut être suivi par le secteur public. Donc la partie où nous parlons de l'emploi informel, on ne peut peut-être pas compter sur ça, mais malheureusement c'est ce qui domine dans notre pays, c'est ce qui domine à certains pays, beaucoup plus les pays d'Afrique. Ce qui nous renvoie à dire que lorsqu'un pays est dominé par le secteur informel, c'est un pays qui ne capte pas, qui ne capture pas le recette fiscale. C'est un pays qui est en train de perdre, et ça c'est même un élément qui contribue au sous-développement d'un pays. C'est pourquoi il est d'une grande responsabilité du gouvernement de travailler en sorte que les secteurs privés, comme on voit ça partout, priment, c'est-à-dire il faut un climat des affaires qui permet à ce qu'il y ait assez d'industries, par exemple, qu'il y ait assez de sociétés, qu'il y ait assez d'entreprises. À travers ces entreprises, on donne de l'emploi aux jeunes, mais à travers ces entreprises, on capte aussi correctement leurs recettes dans les trésors publics. Mais aussi, il faudrait ici souligner, comme j'étais en train de le dire d'entrée de jeu, que nous, parce que quand on parle du secteur privé, il y a bien sûr une part à la responsabilité du gouvernement, mais il y a eu une part de nous-mêmes, Congolais, nous-mêmes, la population qui devrait aussi penser seulement à ne pas être demandeur d'emploi, mais à être aussi des créateurs d'emplois. Mais aussi, et beaucoup plus, savoir que c'est pas dans les bureaux, dans les bureaux, les services publics, je vais dire, qu'on va engager plus de 10 000 personnes, peut-être par trimestre. C'est impossible.
Alors, vous le savez certainement, et d'ailleurs, vous l'avez également évoqué lorsqu'on a parlé du chiffre, il y a l'ONEM qui s'est engagé, en tout cas l'année dernière, à créer au moins 6,4 millions d'emplois en 5 ans. Et au rythme où les choses évoluent, on a comme l'impression que ça patine. Le problème d'emploi est très sérieux à MRDC. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Et à ces rythmes, vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'on peut arriver à atteindre ce pari de l'ONEM?
C'est possible, oui, mais ce n'est pas facile. Au rythme où nous sommes en train d'aller, je peux aussi changer ma réponse pour dire que ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on y ajoute encore beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de conscience pour comprendre que si les choses ne changent pas à un certain niveau, ça ne sera pas possible. Sinon, ce seraient des chiffres pharaoniques qui resteront comme ça et puis nous n'aurons rien apporté.
Alors, en attendant, il y a des initiatives privées, vous en faites partie, vous encadrez en tout cas les jeunes du côté de la province du Haut-Katanga, à moins que j'oublie, vous allez me confirmer cela ou donner des précisions. Alors, pensez-vous que ces initiatives peuvent également aider les jeunes à leur autodétermination, à se prendre en charge, à prendre conscience du rôle qu'ils peuvent bien jouer dans tous les secteurs de la vie nationale?
Monsieur Marcel, merci beaucoup. Je pense que c'est peut-être l'une des grandes raisons qui a fait que vous puissiez aussi me faire intervenir dans cette émission. Effectivement, je suis parmi les créateurs de l'emploi dans ce pays. Et vous avez parlé du côté du Haut-Katanga parce que tout simplement, vous connaissez que je suis élu de Lubumbashi. Mais moi, je vous dis que c'est au-delà du Haut-Katanga parce que même à Kinshasa, je suis quand même parmi ceux qui ont donné de l'emploi. Et aux jeunes et aux mamans, parce que moi, je comprends que la jeunesse, c'est le socle du développement. Les mamans ont une grande partition à jouer pour le développement de notre pays. Et pourquoi? Parce que j'ai parlé d'entrée de jeu de la prise de conscience, que c'est pas par les bureaux de l'État que nous allons avoir de l'emploi dans ce pays, c'est beaucoup plus le secteur privé qu'il faut promouvoir, qu'il faut encadrer, qu'il faut accompagner correctement. Et moi, j'avais pris cette conscience depuis très longtemps. Je me suis dit, bon, on ne resterait pas là en train de recevoir les demandes et les appels de ceux qui nous voyaient très peut-être dans des entreprises, des expatriés qui sont venus chez nous et qui se sont fait de l'argent, qui ont créé de l'emploi, des fois qui sont même venus même réduits, mais qui sont rentrés très riches à partir de des potentialités qu'ils ont trouvées dans ce pays. Alors qu'il fallait aussi que nous puissions explorer ces potentialités nous-mêmes et prendre conscience que ce n'est pas seulement en écrivant le gélonaire qu'on pourrait s'autosatisfaire, mais on peut aussi commencer quelque chose. Moi, j'ai expérimenté cela et effectivement, j'ai donné de l'emploi. Il y a plus de 100 personnes, pour ne peut-être citer que ces chiffres-là, qui bénéficient de cela, tout simplement à cause de l'initiative que j'ai prise, et c'est possible pour que quelqu'un d'autre prenne les mêmes initiatives et qu'il trouve la chance d'octroyer de l'emploi à d'autres.
Voilà, c'est déjà une très bonne initiative et c'est encouragé, bel exemple à suivre. Mais il y a ceux qui estiment également que c'est pas facile à NRDC. Il y a souvent beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés pour arriver non seulement à encadrer les jeunes, mais pour avoir certaines facilités lorsqu'on veut s'élancer dans le secteur entrepreneurial.
C'est le problème réel. C'est le problème réel sur lequel nous devons tabler et beaucoup plus nous les parlementaire aussi, donc comme je voulais le dire, pour tout personne qui a la responsabilité au sein du gouvernement dans ce pays doit comprendre que c'est les secteurs, comme je le disais, qui devraient être privilégiés, accompagnés correctement, parce que c'est pas facile. Nous en avions l'expérience, nous pouvons en donner des témoignages. Il faut avoir une détermination, il faut avoir un cœur fort, pour ne pas dire un cœur dur, pour affronter toutes ces difficultés qu'il y a. Mais comme disait Martin Luther King un jour, derrière une difficulté, il y a une opportunité au fond. Donc il ne faudrait pas croiser les bras à cause de la difficulté, à cause de ce que nous sommes en train de voir, que ce n'est pas facile. Mais toujours dans le même climat où ce n'est pas facile, il y en a qui s'y lancent et qui réussissent. Donc je voudrais en appeler ici à la prise de conscience que deux fois, il faut savoir s'engager, même quand c'est pas facile. Mais nous sommes conscients que c'est pas facile. Les systèmes actuels ou les systèmes depuis la colonisation dans notre pays ne permet pas l'épanouissement du secteur privé ou surtout de l'emploi de jeunes. C'est pas facile parce que l'accompagnement et les mesures de protection, même de promotion de cela, n'est peut-être pas respecté. Ça existe, peut-être même pas, même si c'est pas suffisant, ça existe. Mais ce que je sais, ce n'est pas tellement organisé ou suivi à la lettre.
Voilà, on revient à vous, honorable Jethro Amuyombi. Il est temps pour nous d'ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi et Kamdaï, Pierre qui est à Chikapa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui des défis de création d'emplois des jeunes en RTC. Si vous voulez intervenir, composez les zones 9-756-80-79. Voilà, on va prendre déjà le premier auditeur qui est en ligne. Maître Patrick Odia, vous nous appelez depuis Lubumbashi, vous avez la parole.
Merci de m'associer à ces niveaux du débat. Et saluer également l'honorable Jethro Amuyombi, qui est déjà appris qu'il est devenu président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. C'est quelqu'un de notre de Lubumbashi. Je pense que nous saluons ce travail qu'il est en train d'abattre. Je reconnais en lui les mérites d'avoir créé des emplois, mais ici, laissez-moi, honorable, vous dire que nous parlons de la vie nationale, on ne parle pas de Lubumbashi. Et vous, en tant que parlementaire, je m'en vais d'abord pour demander la question, parce que vous avez voté les budgets, vous avez voté également le programme du gouvernement. Est-ce qu'à ce jour, pouvez-vous décliner le programme national d'emploi que vous avez voté au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de vision à long terme ou court terme, mais aussi à moyen terme également. Est-ce que vous avez cette vision? Quelle est cette vision dans la création d'emplois également, dans les secteurs publics ou dans le secteur privé également, avec l'appui du gouvernement? C'est la première question. La deuxième question également, honorable, est-ce qu'à ce stade, vous en tant que parlementaire, est-ce que vous pouvez-vous nous donner les statistiques? Je pense que vous pouvez les avoir parce que vous êtes élu du peuple et vous avez la facilité de pouvoir toquer partout et avoir ces statistiques. Combien d'emplois ont été créés dans les secteurs formels, tout comme dans les secteurs informels, avec l'appui du gouvernement lors de sa présentation du programme également? Je pense que vous pouvez nous donner ces données. Mais je voudrais également parler des défis auxquels nous faisons face également pour résoudre les problèmes. Je pense qu'il y a problème de structure ou des réformes structurelles. Et quand je parle des réformes structurelles, honorable, vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, la création d'entreprises, parce que 51% c'est dans les secteurs informels, 51% c'est dans les secteurs mobiles. Et pour, à ce stade, pour qu'un jeune comme moi, un monsieur et une dame, puisse avoir au moins les documents attitrés pour avoir une entreprise ici en RDC. Dans la théorie, vous, en tant que législateur, vous connaissez, c'est 24 heures, 48 heures. Et lorsque vous essayez d'envoyer même votre jeune frère, vous allez passer 6 mois, 7 mois, sans avoir les documents également. Et entre-temps, on échappe à beaucoup d'autres choses également lorsqu'on n'est pas sécurisé juridiquement, lorsqu'on n'est pas détenteur des documents également. On ne peut pas bénéficier des microcrédits parce qu'on ne sait pas comment identifier l'entreprise. Est-ce que vous, en tant que législateur, avez-vous déjà pensé une fois peut-être proposer une loi, aller dans ce sens de sécuriser les travaux ou les emplois dans l'informel, par exemple, qu'ils aient également l'accès à des financements microcrédits, même s'ils n'ont pas les statuts juridiquement parlant, mais qu'il y ait quand même un statut juridique, les reconnaît également. D'autant plus que nous faisons face à cette économie informelle et qui nourrit de plus en plus les peuples congolais. Et enfin, je voudrais également parler de... lorsqu'on parle des emplois, monsieur l'honorable, on parle également des investisseurs. Et pour qu'on lutte sincèrement contre, ou qu'on lutte également pour la création des emplois, il faut qu'il y ait les investisseurs. Et pour que les investisseurs viennent en RDC, qu'ils soient privés ou internationaux également ou nationaux, il faut lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance également. Mais au jour d'aujourd'hui, la corruption a été à un niveau endémique, mais notamment la mauvaise gouvernance dans beaucoup de secteurs également. Vous êtes législateur, vous le savez également. Voyez-vous, avec ces genres de choses, les investisseurs, les partenaires, peuvent-ils venir investir pour faciliter également la création d'emplois également? Ça, c'est aussi un autre problème. Je voudrais vous demander votre indulgence honorable d'inviter les DG. Vous en avez la capacité, vous êtes juriste.
d'inviter les DG de l'ONEM. Lorsqu'on vous voulez postuler dans une entreprise, on vous demande la carte de l'ONEM. Vous arrivez, c'est gratuitement. Mais vous pouvez faire n'est-ce qu'un mois, quatre mois, même 10 jours, si vous avez la chance de vous donner moyennant un $30, $40, pour que vous ayez la carte d'ONEM ici. J'ai des preuves et vous pouvez mener des enquêtes, vous êtes honorable. Est-ce que pouvez-vous, à ce stade, inviter également l'ONEM qui contribue également tant soit peu dans la création d'emplois également, pour voir également pourquoi ces barrières tant décriées continuent également sous nos autres gestions alors que vous êtes député. Voilà au moins de manière intrinsèque quelques réflexions que je voulais mettre à votre portée en termes de questions et suggestions et aussi des rélevabilités pour que vous puissiez nous éclairer.
Voilà, merci Maître Parti. Vous avez également insisté que la création d'emplois rime avec la lutte contre la corruption. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Et également, ça rime avec la bonne gouvernance. Merci Maître Parti au diable d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Kandaï Pierre, vous êtes à Chikapa. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Marcel, pour ce thème très pertinent. À mon avis, les défis principaux liés à la création d'emplois pour les jeunes en RDC résident dans la politisation excessive du recrutement dans les secteurs publics, où les jeunes compétents sont souvent écartés au profit des critères non méritocratiques. Et du côté du secteur privé, les exigences d'expérience de 5 ans ou plus pose également un obstacle majeur à l'intégration des jeunes fraîchement diplômés. Et ces doubles verrous créent une impasse pour beaucoup de jeunes congolais qui, malgré leur potentiel, n'arrivent pas à insérer dans le monde professionnel. Et c'est face à cette réalité que j'ai décidé, moi personnellement, de lancer à Chikapa au Kasaï un réseau appelé Réveil d'initiative. Ce réseau vise à accompagner les jeunes vers l'emploi et l'entrepreneuriat à travers des formations, du mentorat et de la mise en réseau avec les opportunités concrètes.
Et Kandaï, c'est intéressant cette initiative. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ce réseau et ça porte des résultats?
Oui, j'ai lancé ce réseau il y a de cela 6 mois. 6 mois déjà, mais dans 6 mois, il y a déjà les résultats, quelques résultats palpables sur terrain, parce qu'il y a déjà plus de 8 membres de ce réseau qui ont eu du boulot. Ils ont signé quand même le contrat, quoi qu'avec les privés, les organisations en fait. Et du côté entrepreneuriat, on a eu à accompagner certains jeunes sur place. Il y a déjà un groupe de jeunes qui ont produit du jus à base de fruits des oranges. Donc c'est un jus local, même si du côté agriculture, nous avons déjà 2 hectares. C'est dans le secteur de Kabambayi, précisément, à Dibeya, l'un des secteurs de la province du Kasaï ou du territoire de Chikapa. C'est là où nous sommes en train de mener des activités comme ça. Et j'étais en train de dire que l'objectif de cette initiative ou de ces réseaux, c'est former les jeunes aux compétences pratiques et recherchées sur le marché du travail et aussi encourager l'auto-emploi à travers l'accompagnement à la création d'entreprises locales viables et mettre en place un système de mentorat pour guider les jeunes dans leur parcours professionnel et entrepreneuriaux, et aussi sensibiliser les décideurs locaux et nationaux sur la nécessité d'investir dans une jeunesse productive et responsable. Notre mission est d'éveiller les talents dormants, enrichir les capacités locales et de faire fleurir les opportunités pour que la jeunesse devienne véritablement un moteur du développement du Kasaï et de la RDC. Et nous croyons que les solutions durables viendront aussi des initiatives locales, de l'engagement de la jeunesse elle-même ou des jeunes elles-mêmes. Mais je voudrais aussi faire un commentaire du côté tableau statistique. À la lecture de ce tableau, un élément frappe immédiatement parce que le secteur privé Autrement dit, l'État n'est pas le troisième, n'est que le troisième employeur en RDC, loin derrière le secteur privé, avec 51% et même ménage 38%. Cela illustre facilement une réalité préoccupante. L'État, qui devrait jouer un rôle moteur dans la création d'emplois, en particulier pour les jeunes, reste faiblement impliqué dans les processus d'insertion professionnelle. Ce classement révèle aussi un paradoxe. Beaucoup de jeunes inspirent ou aspirent à intégrer la fonction publique, mais les portes sont rares, souvent politisées et peu accessibles sans réseau. Cela alimente le découragement chez les jeunes et ça renforce la dépendance au secteur informel qui domine l'économie avec 84% des opportunités, mais sans protection sociale ni stabilité. Cela confirme donc l'urgence pour l'État congolais de revoir sa politique d'emploi et d'investir davantage dans des programmes structurés, transparents et inclusifs pour les jeunes, tout en créant un environnement favorable à l'initiative privée. C'est dans ce contexte que l'initiative locale, comme réveille d'initiative à Tchikapa, prennent tout le sens en apportant des solutions concrètes où des mécanismes institutionnels restent faibles ou inaccessibles. Pour relever les défis, moi je pense que la création d'emplois des jeunes en RDC, l'État peut agir sur plusieurs leviers stratégiques. Donc voici quelques...
Rapidement, vous avez, déjà pris beaucoup de temps. Rapidement.
Les politiques d'emploi. Ouais.
Les stratégies, oui, rapidement.
Je disais, l'État pouvait renforcer les politiques d'emploi, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des initiatives, valoriser le secteur informel, renforcer l'enseignement technique et professionnel, créer des partenariats publics et privés, décentraliser les opportunités.
Voilà.
Et j'avais aussi des questions à poser à l'exité, c'est nous faire voir les tableaux. C'est que l'apport de l'Assemblée est comme le député représentant des peuples, de nous faire voir les tableaux, soit l'apport, ce qu'ils ont fait concrètement pour que la jeunesse congolaise ait l'accès facile à l'emploi.
Voilà, vous êtes vraiment porté hein, dans ce secteur de la création d'emplois et vous avez beaucoup eu de temps, bon, justement parce que vous êtes vraiment intéressé hein, par... la création d'emplois et félicitations pour ce que vous faites en tant que jeune, courage à vous. Merci Kandaï Pierre depuis Tchikapa. Juste Kandaï, vous êtes à Bounia, on vous écoute.
Merci Monsieur Marcel, merci aussi à l'invité.
Vous avez la parole.
Oui, quand nous parlons de la République démocratique du Congo, à ce qui concerne l'emploi des jeunes, Monsieur Marcel, c'est avec beaucoup de regrets et de frustrations que nous traversons. Parce que depuis 2022, M. Marcel, que le président lui-même avait promis 9,6 milliards d'emplois des jeunes. Et chaque mois, il faut qu'on donne d'emplois de 100 000 jeunes. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà 2025. Est-ce que l'invité peut nous donner d'abord ce bilan-là? Mais malgré que les pays, en tout cas, souffrent, mais ils font que, en tout cas, que nos gouvernants prennent conscience qu'on puisse encourager d'abord les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Monsieur Marcel, vous voulez créer soit une activité commerciale et vous avez un chiffre d'affaires, par exemple, de 1 000 $. Et vous voyez une taxe de 1 500 $. Le gouvernement a quelle vision pour ces jeunes? Ça, c'est un. D'aider nous, les gens qui sommes ici à l'Est. Vous voyez que le pays va mal, et ici chez nous particulièrement. Les atrocités, les jeunes, on pousse les jeunes à être enrôlés dans l'armée. Je ne sais pas si c'est ce que le président avait promis le gouvernement souminois, que non, il faut que les jeunes soient engagés. Est-ce qu'il faut qu'ils soient engagés dans les services militaires? Parce qu'il y a déjà, Goma et ailleurs, on est en train de forcer les gens, comme vous connaissez. Alors, moi, la question que j'aimerais poser à notre invité, nous sommes déjà au mois de mai 2025. ni main. Monsieur l'invité, pouvez-vous nous donner, nous en tant que jeunes entrepreneurs, quels sont les avantages que le gouvernement propose pour les jeunes gens qui veulent en tout cas se plonger dans l'entrepreneuriat? Parce que tout le monde ne peut pas être dans les services publics. Mais lorsqu'on crée lorsqu'on crée par exemple une activité lucrative, mais il faut qu'on laisse certains avantages. Mais lorsqu'on veut encore décourager les entrepreneurs, et vous voyez la suite de ces jeunes, ils finissent aussi d'aller dans les groupes armés. Alors, monsieur Marcel, en tout cas, je demanderai que nos gouvernants prennent conscience que notre patrimoine commun, c'est ce pays, la République démocratique du Congo. Mais nous laissons les Somaliens, nous laissons les Chinois, nous laissons les Pakistanais, nous laissons en tout cas tous les étrangers qui viennent exploiter nos minerais ici. Et je pense que la loi est muette quant à ça. Mais lorsqu'on voit un jeune, on voit un national, un Congolais, il crée soit une activité et toutes les taxes, les impôts vont se plonger pour décourager cet entrepreneur. En tout cas, je demanderai à ce gouvernement qu'on prenne conscience, qu'on protège les jeunes entrepreneurs, parce que tout le monde ne peut pas être à la DGI, tout le monde ne peut pas être à la DGRAD.
Merci. Merci.
Il fallait que nos gouvernants prennent conscience. Merci, monsieur Marcel, et bonne journée.
Merci et bonne journée à vous, Justin Calab. On ne va pas s'embrouiller avec des chiffres. Hein. Vous avez parlé de 9 milliards d'emplois. Bon, ce n'est pas du tout ça, mais j'ai compris. Le gouvernement s'était plutôt engagé, à, en tout cas, pour 6,4 millions d'emplois en 5 ans, c'est-à-dire d'ici l'horizon 2028. Merci, Justin Calabia, d'avoir appelé depuis... Bounia, voilà. J'ai le plaisir de dire rebonjour à mon invité qui vient de nous rejoindre dans ces studios, Nora Bégétro. Merci finalement. Vous êtes là, vous avez déjà commencé à réagir hein, au téléphone avant de nous rejoindre dans ces studios pour cette question sur la création d'emplois. On va rapidement revenir sur les interventions de certains auditeurs. Vous avez suivi Maître Patrick Odia qui était le premier à intervenir et qui a insisté sur la vision globale hein, à long terme, hein, vous en tant que parlementaire, pour ce qui est de la création d'emplois en RDC, il a également insisté sur le fait que création d'emplois rime avec la bonne gouvernance et également la lutte contre la corruption. Vous avez suivi également d'autres auditeurs qui se disent découragés. Hein, ils ont souvent peut-être des idées de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais les contraintes les découragent. Honorable Jétro Muyombi, qu'est-ce que vous en dites?
Merci, M. Marcel. D'abord, je voudrais encore m'excuser pour le retard. Vous savez, nous, en tant que parlementaires, nous sommes concernés par tout ce qui se passe ici. J'ai fait plus d'une heure sur la route.
Les embouteillages, un véritable casse-tête pour les trucs qui courent dans la ville et qui me chassent ça.
Je m'excuse, je présente mes excuses à nos très chers téléspectateurs.
Auditeurs.
Auditeurs, merci beaucoup. Alors, je vais rapidement aller sur des interventions de nos auditeurs. Merci à Maître Patrick. Nous comprenons effectivement qu'il s'agit de la politique du gouvernement, bien sûr. Nous ne pouvons pas cesser d'associer des idées pour combler, si possible. Mais vos interventions sont très pertinentes. Et il faut noter ici que le gouvernement, Madame Souminois, n'a pas encore une année. Lorsque vous parlez de la politique que le Parlement a adoptée, la politique par rapport à la création de l'emploi, lorsque nous parlons déjà de 6,4 millions, c'est-à-dire c'est un point de la politique par rapport à la création de l'emploi que Madame la Première Ministre avait introduit dans son programme du gouvernement. Et il y a beaucoup de détails là-dedans, peut-être que nous ne pouvons pas étayer ici, mais vous trouvez qu'il y a les réformes qu'il faut mettre en place, ça a été dans son programme du gouvernement. Il y a l'agriculture qu'il faut améliorer, tout ça, pour créer de l'emploi à travers ces secteurs-là. Il y a beaucoup de choses. Et le Parlement a réellement approuvé, voté, après avoir amélioré ses programmes tels que c'était présenté par Madame la Première Ministre. Lorsque nous sommes rentrés dans la session septembre de 2024, déjà il y avait une certaine motivation aux parlementaires de pouvoir vérifier combien d'emplois étaient déjà créés. Vous vous rappelez bien que le programme du gouvernement a été approuvé, si j'ai bonne mémoire, c'était au mois de juin 2024. Et on partait déjà en vacances parlementaires, et au mois de septembre, il y a eu déjà des questions pour savoir combien d'emplois étaient créés. Donc, pour s'assurer ou se rassurer de ce que le programme était mis en place correctement. Mais on s'était dit au finish que c'était très tôt, parce que les membres du gouvernement et la Première ministre elle-même devraient d'abord prendre connaissance de leur nouvelle responsabilité, tout ça pour se mettre au travail. C'était vraiment trop tôt, 2-3 mois déjà pour les juger. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'ils ont 11 mois, si j'ai fait très bien le calcul. Et nous, en tant qu'élus, parce que la question était de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train de mettre déjà en place les outils qu'il faut pour contrôler, pour vérifier de tout ce qui s'est fait. Et je ne peux pas en répondre maintenant parce que cette session est beaucoup plus dominée du contrôle parlementaire. Chaque mercredi, il y a des questions orales avec débat adressées aux membres du gouvernement pour savoir si le programme qui était voté est réellement mis en place. Donc, l'Assemblée est en train de jouer sa partition par rapport à cela. Par rapport aux statistiques telles que demandées, malheureusement, je ne peux pas en donner maintenant, mais nous connaissons que aussi il y a eu beaucoup de réalités pendant cette période. Il y a la guerre à l'Est. Il y a, pendant qu'on se concentre à ceci, peut-être on est obligé d'aller à autre chose. C'est pas des excuses que nous voulons donner. Bien sûr, il doit toujours, la vie doit continuer et les gouvernements doivent fonctionner, quelles que soient les difficultés qu'il y a. Mais peut-être nous aurons encore la chance, M. Marcel nous donnera la chance pour qu'on vienne avec les statistiques réelles par rapport à ce qui est fait maintenant et par rapport à ce qui pourra être fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire confiance à votre Parlement et à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous atteler pour bousculer et suivre par rapport à la politique qui était définie dans le programme. Alors, là, c'était par rapport aux questions de Maître Patrick.
Maître Patrick Odia, mais qui également a insisté sur la création d'emplois rime avec la lutte contre la corruption, mais aussi la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez?
Exactement. C'est comme j'étais en train de dire dans le programme, lorsqu'on a parlé de la réforme, c'est déjà une façon de parler de la bonne gouvernance, c'est-à-dire se mettre en place les outils qu'il faut pour permettre à ce que les contrôles par rapport à ce qui est corruption, les mécanismes pour réduire la corruption. Je voudrais pas l'annoncer ici. Moi-même, j'avais fait un écrit pour que les gouvernements prennent en compte tout ce qui se passe dans le secteur privé, parce qu'il faut que je le dise aussi que moi, je viens aussi du secteur privé. C'est le secteur que je maîtrise encore plus mieux. J'ai des réalités de tout ce qui se passe sur terrain. Effectivement, mais Maître Patrick, merci parce que vous avez aussi parlé de l'absence.
Alors, si vous voulez bien, si vous pouvez vous mettre vraiment devant le micro, parce que
d'accord. Merci beaucoup.
C'est bon.
Vous avez aussi parlé de l'absence des textes, mais moi, je voudrais peut-être ici dire que, bien sûr, il y a encore des textes qu'il faut mettre en place. Mais c'est pas manque de texte réellement que nous avons comme problème, mais peut-être nous avons aussi un problème de ressources humaines sur terrain, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, la loi dit, j'ai pas l'article, la précision ici, mais la loi interdit certaines responsabilités aux expatriés. Je peux peut-être dire le jardinage ou les cleaning, par exemple. Mais vous allez trouver que il y a des expatriés dans certaines sociétés qui sont en train de faire ce genre de travail. Est-ce que pourquoi ils les font? C'est par manque de textes ou des outils? Non,
c'est seulement le non-respect des textes, parce que bien souvent on dit dans ce pays c'est l'application des textes qui pose problème. Même pour le petit commerce, à un moment il y a des manifestations par rapport à tous ces expatriés qui étaient dans le petit commerce. Exactement. Mais apparemment ils y sont toujours.
Exactement, c'est les non-respects des textes. Moi, je voulais parler de ressources humaines.
Oui.
Parce que des fois, il y a des gens qui descendent sur terrain. Il y a pas seulement les non-respects des textes, mais il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est pourquoi il faut y travailler sérieusement. Parce que des fois, les agents de l'État descendent pour contrôler dans des entreprises où, par exemple, il est dit, le pratique veut que les ressources humaines, par exemple, ne soient pas aussi une responsabilité d'un expatrié qui ne maîtrise pas les textes, les lois de notre pays. Mais vous trouvez dans certaines sociétés les ressources humaines gérées par un expatrié. Et l'inspection de travail descend dans toutes ces entreprises-là. Il le constate, mais peut-être il y a des pots de bananes, il y a autre chose. Et puis il laisse passer la situation. Pourquoi ? Est-ce que c'est l'absence de texte? Non. Est-ce que c'est non-application de texte? Non. Mais c'est peut-être l'encadrement et le traitement de la main-d'œuvre, disons, du personnel et du gouvernement, qui fait que, bon, parce qu'il a faim et il accepte de se lancer à des pratiques inacceptables, et il laisse passer, il laisse pourrir la situation, alors que les textes existent bel et bien. Bon, moi, je crois que on doit y travailler dans les sens où il faut renforcer les textes qui existent, bien sûr, mais peut-être aller plus loin, comme disent les Anglais, « we must think out of the box ». Donc, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer les ressources humaines de notre pays.
Alors, avant de prendre le toit d'un auditeur, si peut-être un commentaire par rapport à Kandaï Pierre. Lui, il a créé un réseau, en tout cas, pour essayer d'aider les jeunes du côté des Tchikap à avoir de l'emploi. Mais il dit qu'ils sont souvent butés également au manque de soutien de la part du gouvernement. D'après lui, le gouvernement ne soutient pas vraiment les initiatives des jeunes pour ce qui est de l'emploi.
Je crois d'abord il faut le féliciter parce qu'il y a peu de jeunes, il y a peu de personnes qui se lancent à mettre quelque chose en place. Parce que si tout le monde devrait attendre que le gouvernement fasse tout alors que le gouvernement peut être en train de traîner les pas et que ça ne vient pas, donc est-ce qu'on va mourir là? Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Moi je crois que je dois féliciter notre ami au niveau de Tchikapa,
Kandaï Pierre, oui.
Notre ami Kandaï, oui, parce que ce qu'il est en train de faire c'est déjà une très bonne chose. Mais je pense que il y a certains, je vais toujours entrer dans l'outil principal qui est les programmes du gouvernement,
oui.
Qui nous aideraient. Qu'est-ce que le gouvernement pense faire? Je crois lorsqu'on parle de réforme, si vous descendez là très loin, j'ai pas les programmes ici, mais je les scriptés. Vous allez aussi trouver, il y a tout ce qui a formation, il y a tout ce qui a innovation de la technologie, système, ainsi de suite. Mais peut-être qu'il ne se fait pas encore, ça reste encore comme des idées. Mais est-ce que si nous, je rentre à ce que disait Maître Patrick, le premier intervenant, qu'il s'agit de programmes du gouvernement, mais est-ce que si nous, en tant que citoyens congolais, nous prenons en charge, comme le disait Mzé Laurent Désiré Kabila, prenons-nous en charge? Et si nous nous prenons en charge, est-ce que nous faisons un péché? Je ne pense pas. Nous pouvons toujours continuer. C'est pourquoi M. Kandaï est à féliciter. Et ce qu'il est en train de faire, c'est déjà quelque chose de bien. Mais il peut aussi s'approcher, par exemple, au ministère du Plan, qui a l'ANAPI et tout ça, qui a le climat des affaires et tout ça. Il peut aussi s'approcher même au ministère de la fonction publique pour voir
comment on peut le soutenir. Mais permettez, on va prendre le toit d'un auditeur rapidement et puis on va revenir avec vous, honorable Jethro Muyombi. Nous avons Sylvain Aguenoff qui nous appelle depuis Mahagi. Sylvain, on n'a plus assez de temps. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, allez-y, on vous accorde une minute. Sylvain Aguenoff depuis Mahagi, vous avez la parole.
Ah, en fait, il faut tout simplement renverser la mathématique budgétaire.
Oui.
Je n'épouse pas l'idée du député, bien que je le félicite pour ce qu'il fait déjà en faveur de la jeunesse. Mais moi, je me dis, moi demain, je serai président de ce pays. Quel est le budget que je donne pour le secteur emploi? C'est ça le problème. Il faut pas aller très loin. Le problème du Congo, c'est que le budget que ces députés et ses collègues qui sont là, nous avons des grands frères qui sont là, ne reflètent pas les problèmes de l'employabilité de l'économie congolaise. Alors, comment est-ce qu'on va demander aux jeunes gens de se débrouiller? Les jeunes se débrouillent déjà très bien. Vous avez suivi un exemple du côté de Tchikapa, là. Et même nous, on le fait ici. Donc, le problème, c'est qu'il faut que l'État s'assume sur le plan économique. je termine en disant ceci, puisque vous m'avez donné juste une minute. Je ne vais pas prendre assez de temps. Je termine en disant ceci. Dans une démocratie sérieuse, les présidents de la République démissionneraient, le gouvernement aussi démissionnerait, tout simplement puisqu'ils n'ont pas donné l'emploi. Moins de 15% des jeunes congolais accèdent à l'emploi public.
Voilà, on va gagner du temps. On retient, s'il vous plaît, on va gagner du temps. On retient pour vous, il faut un vrai budget concernant la création d'emplois en RDC. C'est ça le plus important qu'on retient. Merci Sylvain Ganoff depuis Maïgis. D'or, Dunia, vous êtes à Bukavu. Vous avez la parole aussi pour une minute. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Vous avez suivi celui qui vous a précédé à parler du budget et vous avez quelque chose à ajouter pour ce qui est de la création d'emplois. C'est Olivier Kaindo. Alors, je pensais que c'était Isidore. C'est Olivier Kaindo qui appelle depuis Kikuit. Olivier, vous avez la parole. En une minute aussi.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Voilà. Moi, je pense que je n'attends pas seulement les emplois publics. Oui. Moi, je voudrais que l'État puisse ouvrir les voies pour que l'emploi privé soit aussi un domaine sur lequel nous devons nous lancer. Et je dois vous dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de créer des emplois. Mais il y a un problème de mobilité. Vous comprenez que la mobilité en RDC, c'est un problème. Je ne peux pas quitter Kikwit pour aller à Tembo, où j'ai mes affaires, et si j'arrive à Tembo, j'ai tout perdu. Donc, le prix de revient à Tembo sera une histoire inaccessible. Donc, il faudrait que l'État puisse favoriser la création d'emplois en créant des conditions, enfin, en favorisant les conditions pour que les gens se donnent eux-mêmes de l'emploi. Or, pour le moment, le grand problème, ce sont les conditions dans le pays. Et la première condition, c'est la mobilité. Il faudrait qu'on travaille sur la mobilité des citoyens pour que les gens aient la possibilité de créer des emplois. Et on n'aura pas à attendre les emplois publics.
Voilà, l'État doit améliorer les conditions pour accéder à l'emploi. On retient cela avec vous, Olivier Kaindo, depuis Kikuit. Je pense qu'Isidore est là. Isidore, vous êtes là? Isidore, vous êtes là depuis. Allez-y rapidement, Isidore, depuis Bukavu. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à la création d'emplois? Rapidement, en une minute. Bon, désolé, on est presque à la fin. On va pas s'attarder avec Isidore Dunia qui voulait intervenir depuis Bukavu. Il faudra qu'on puisse conclure à ce sujet avec notre invité. Il faut retenir. Vous avez, si vous voulez rapidement réagir par rapport à celui qui a dit, il faut c'est le budget. L'État n'accorde pas un budget conséquent pour ce qui est de la création d'emplois. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, je crois dans une minute, je peux dire, ça peut être vrai, mais il faut voir que lorsque le budget est arrivé au Parlement. Tel qu'il est sorti ou voté, c'est pas tel qu'il est venu, mais pour comprendre cela, par rapport à la création de l'emploi, il faut entrer dans plusieurs secteurs. Comme je l'ai disais, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur des transports, il y a plusieurs secteurs qui ont été, qui s'est vu aussi dans les chiffres, se sont vus aussi être bousculés, bougés pour que on puisse augmenter un peu ce qui était proposé. Moi, je crois que c'est déjà, il y a déjà quelque chose qui est en train d'être fait dans ce sens-là. Peut-être on doit encore voir à d'autres, point, mais il y a déjà une amélioration par rapport à ça.
Voilà, et cette réaction des trésors en Gassa de Pékinchassa, chaque année l'État congolais remet des millions de diplômes aux jeunes congolais avec zéro création d'emploi par an, alors qu'il était capable de créer plusieurs emplois. Si je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, il y a plusieurs emplois que l'État peut perfectionner et engager plusieurs jeunes. Malheureusement, il préfère laisser au profit des inscrits. Par exemple, le ministère des Transports peut employer plusieurs jeunes et l'exemple sont les gens. Voilà, il y a ceux qui estiment qu'il faut à l'État d'améliorer les conditions pour de l'emploi pour les jeunes.
Ce que nous pouvons noter ici, c'est que c'est une préoccupation même pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'a dit maintes fois dans différents discours qu'il a tenus, mais c'est aussi une préoccupation pour nous, les élus du peuple, et nous continuons à y travailler. Moi, comme je l'ai dit quelque part, que je viens de ces secteurs privés, nous pensons que nous allons nous y atteler, nous concentrer pour suivre, pour contrôler, pour mettre tout ce qu'il faut en place pour que la création de l'emploi soit une réalité. Parce que si aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons sur terrain, les banditismes et autres, c'est peut-être dû aussi au taux de chômage très élevé. C'est une réalité que la création de l'emploi doit être une évidence. Mais comme je disais encore quelque part, il faudrait qu'on comprenne que on ne doit pas croiser les bras parce que le gouvernement n'a rien fait. Il faudrait qu'on prenne conscience que nous devons faire quelque chose. Il y a la politique du gouvernement d'un côté, mais il y a aussi la prise de conscience parce que il y a d'autres pays qui se sont vus évoluer par rapport à une révolution, pas une révolution de prendre les armes, mais une révolution d'esprit pour que nous puissions combler ce qu'il y a à combler. Mais cela ne veut pas dire que nous ignorons, moi personnellement, en tant qu'élu du peuple, en tant que député, que nous ignorons la responsabilité qu'a le gouvernement de créer l'emploi.
Il faut compter sur le Parlement par rapport à cela. C'est quelqu'un qui a posé également la question rapidement. Le Parlement peut aussi jouer un rôle. Il y a quelqu'un qui a même demandé pourquoi pas un jour, au niveau du Parlement, voir comment échanger avec l'ONEM pour savoir comment les choses évoluent.
Et j'ai très bien noté cette question-là. Et je crois qu'il sera satisfait dans peu de temps.
Voilà. Merci beaucoup, honorable Jethro Muyombi. Vous êtes député national élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Et vous êtes également initiateur de projet d'encadrement des jeunes. Merci d'avoir été de notre.
Merci, Monsieur Marcel, pour votre invitation.
Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs des 6 jours. Merci à toutes, de l'avoir suivi. Merci à Hippolyte Kapanga, qui était à la mise en onde à Julie Feza Bogonda, qui l'a réalisé, coordonné à Nelson Nyombe, qui était là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.